Il est 7h14, Pierre-Yves, c'est pas joyeux ce matin, là, tu nous parles de séparation.
Ben oui, c'est après Noël, c'est normal, après Noël, il y a souvent des séparations. Et là, j'ai une question récente sur les impacts fiscaux, puis j'ai décidé de faire un exemple ce matin, okay. Et ça va te faire sourire, Louis. Parce que la fiscalité canadienne et québécoise est quand même taquine, OK? Mm. On part, OK? Bonjour Pierre-Yves, nous sommes un couple de deux personnes avec des enfants d'âge scolaire. Qu'arrive-t-il en cas de séparation? Je gagne 40 000 et mon ex-conjoint 60 000. Donc, on s'entend, Louis, là. Il y a un écart de 20 000 brut entre les deux. 50 % d'écart. Mais quand tu sors ta calculette fiscale, tu te rends compte qu'après impôt, monsieur gagne, si on oublie les crédits spéciaux, mais juste le crédit de base, là, mm-hmm. 45 700 piastres, puis madame gagne près de 33 000 $. Alors, il y a un écart de 13 000 net, alors que l'écart brut est de 20 000.
Mm-hmm.
Donc, en partant. Là, on calcule la pension alimentaire. Là, la pension alimentaire avec des frais de base, de garde et une répartition 50-50 des deux enfants d'âge scolaire, monsieur va payer 200 $ par mois, madame. Lui ne pourra pas le déduire, elle, ce ne sera pas imposable, donc on transfère 2400 $ de monsieur à madame.
Ouais.
Donc, madame est rendue à 35 191, puis monsieur est rendu à 43 315, donc l'écart de 20 000 est devenu seulement combien? 8 124.
Mm-hmm.
Après ça, il y a l'allocation canadienne pour enfants qui embarque. Le monsieur, comme il gagne plus au brut, reçoit 4 171, madame reçoit 6 075, et donc, le salaire de madame qui gagne 40 000 est rendu au net à tâche statuque, 41 266. Et le salaire de monsieur est rendu 47 486, donc l'écart de 20 000 est juste rendu à 6 220.
Ouais.
Ajoutons l'allocation famille du Québec, hein, et le supplément de fourniture scolaire. Monsieur reçoit 5 066, madame reçoit 5 886, donc madame est rendue avec un salaire disponible annuel de 47 132 pour un salaire de 40 000, donc elle a de l'impôt négatif, tandis que monsieur est rendu à 52 552 sur 60 000, donc l'écart de 20 000 brut est rendu juste 5 000 net après pension allocation. Là, c'est pas fini. Le gouvernement dit « Hey, madame, elle a le droit au crédit pour personne à charge parce qu'elle reçoit une pension alimentaire.
Ouais. »
Et comme monsieur paye, lui, il a pas le droit, alors ça réduit encore l'écart. Qui plus est, les dépenses sont en fonction de la répartition brute des salaires. Donc, même s'il y a un écart de juste 5 000 entre les deux au net, monsieur doit payer certaines dépenses à 60 % et madame à 40 une fois la répartition faite.
Ouais.
Là, on ajoute encore, monsieur se fait une nouvelle conjointe dans l'année suivante, à qui gagne 40 000. Là, le Québec dit, à ta minute, là, t'as quelqu'un pour t'aider, même si ça paye pas de trouble, on va t'enlever 1838 au Québec et 1429 net au fédéral. Donc, l'écart entre les deux ex-conjoints est rendu de 2000 piastres net, même si on a un écart de salaire de 20 000. Donc, madame est persuadée que monsieur roule sur l'or et qu'elle est dans la pauvreté, alors qu'au net fiscal, c'est presque rien. Et là, on va aller plus loin, Louis. Je t'ajoute tous ceux qui travaillent au noir. Et je te parle même pas de l'écart entre monsieur et madame, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées pour gagner la même paye. Parce que t'as beau avoir un écart de 20 000, si celui qui s'est fait 60 000 met 60 heures par semaine au lieu de 35, t'as-tu pensé à la qualité de vie?
Ouais.
Donc, en conclusion, les règles gouvernementales, ça augmente pas mal la frustration des payeurs et receveurs. Et ça vient causer une anomalie de marché incroyable dans la réalité fiscale des gens. C'est beau, hein? T'as vu mon enthousiasme, hein?
Oui, je comprends.
T'as-tu vu ça? Comment que dans le fond, deux personnes qui ont 20 000 d'écart, finalement, ont plus rien au net, des fois?
Oui, exactement.
C'est fantastique, la fiscalité québécoise, parce que on tient compte de certains facteurs dans certaines occasions, et on n'en tient pas compte dans d'autres occasions, qui font en sorte que, bonne année, hein?
Oui, exactement. Bon, et là, tu dis que tu veux aider ton enfant à acheter sa première maison. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, ben pas moi, évidemment, je suis pas ce genre-là, mais les autres, là. Il y a un monsieur qui me dit... Non, mais il y a un monsieur qui me dit, qui m'écrit et dit « Ma fille est avec un travailleur autonome qui a pas 2 ans d'expérience. »
Ouais.
Et quand t'as pas 2 ans d'expérience, les banques font comme « Hey, toi, t'es pas fiable, on te calcule pas dans le calcul hypothécaire, donc elle peut pas s'acheter une maison.
Mm-hmm. »
Bon, moi, je dirais au monsieur, attendez donc, il y a les moyens de s'en acheter une. Mais mettons que tu veux les aider pareil. La première option, c'est acheter la maison toi-même puis la revendre à eux quand ils pourront te l'acheter.
Ouais.
Évidemment, ça fait en sorte que...
En leur chargeant un loyer, évidemment, qui couvre l'ensemble des...
Des frais, mais qui pourraient être imposables, évidemment.
Ouais.
Et toi, surtout, quand tu achètes la maison, tu prends tout le risque d'affaires.
Ouais.
Donc, le risque de perte de valeur ou de gain de valeur, c'est toi qui l'as. Et donc, l'impôt qui va avec.
Ouais.
Deuxième option, garantir le prêt. tu sais, ta fille va emprunter, puis tu dis, hey, c'est quoi, je vais emprunter, je vais cautionner ton prêt pour t'aider. Ben, oubliez pas que si vous payez, si la fille ne paie pas, vous devez payer la maison, mais la maison vous appartient pas.
Non, c'est ça.
Elle appartient à la personne qui a pris le prêt. Donc, c'est beaucoup de risques pour l'amour d'un enfant. On continue. Faire un don pour la mise de fonds. Tu peux dire, hey, m'a donné 50 000 pour ta mise de fonds. Attention. Si vous faites un don pour la mise de fonds, faut écrire un papier qui dit à la banque, nous avons fait un don et c'est vraiment un don, ce n'est pas un prêt. Mm-hmm. Et donc, votre enfant vous doit rien, mais qui plus est, si votre enfant met 50 000 de mise de fonds par rapport à son conjoint de plus, il faut protéger non seulement le capital dans l'acte notarié, mais il faut protéger aussi le gain de valeur dans l'acte notarié.
Ouais.
Parce que si la maison prend 100 000 avant la vente et la future séparation statistique, il y a pas, il y a une chose qui arrive, c'est que votre fille doit avoir un rendement sur son 50 000 plus le 50 000 qui sera protégé en fonction du gain de valeur.
Ouais.
Et la quatrième option, c'est faire le prêt vous-même à votre enfant en partie. Ça prend de l'argent, mais surtout, assurez-vous d'avoir une protection notariée. Ouais.
Mais si vous avez de l'équité sur votre maison, vous pouvez le faire, non?
Oui, mais tu sais, t'as un risque quand même que ton enfant te rembourse pas. Et après ça, si t'as un deuxième enfant, puis vient le temps de l'héritage, est-ce que votre enfant, son héritage est nettoyé ou doit de l'argent à l'autre enfant? Faut le prévoir au testament. Donc, aider
son compliqué.
Enfant, c'est bien du trouble. Dans le fond, ce qui est mieux, c'est les laisser s'arranger tout seul.
Exactement.
Non, mais là, donner un petit coup de pouce, ça se peut, mais faut faire un don. Ouais. Le reste, là, t'sais, si vous faites un prêt à vos enfants, assurez-vous d'être capable de le perdre.
Merci.
C'était mon enthousiasme fiscal.
Ben oui, c'est ça. Et bonne année 2020.
Bonne année tout le monde!
Salut Pierre-Yves, à demain. Au revoir.